France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau sur France Culture, heureux de vous retrouver pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Certaines saisons ne nous demandent pas seulement de croire, mais d'oser vivre. Le carême appartient sans doute à ces temps-là, non pas une parenthèse grise, mais un chemin d'audace. Audace d'écouter autrement, d'habiter nos fragilités, de poser des gestes qui rouvrent l'avenir. Cette année, le carême protestant sur France Culture s'intitule « L'audace de vivre, des gestes pour espérer ». Une invitation à regarder de près ces gestes minuscules, souvent anonymes, qui naissent d'une parole reçue et deviennent sans bruit des actes de confiance. Chaque dimanche, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 29 mars inclus, à 16h sur France Culture, je vous propose 6 rendez-vous pour traverser ce temps avec la Bible, la musique et la parole radiophonique. Pour nous donner le goût de ce chemin, Solae reçoit aujourd'hui Nathalie Chaumet, pasteur à l'église protestante unie à l'Étoile à Paris, qui portera les méditations de ce carême, et Florence Guémy, coordinatrice du projet pour la paroisse de l'Annonciation et lectrice des textes bibliques, sans oublier notre chroniqueuse du jour, la pasteur Sophie Aulier. Bienvenue dans Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture. Bonjour à toutes les trois, heureux de vous retrouver ici autour de cette table.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Jean-Luc.
Florence Guémy, c'est avec vous que j'aimerais commencer avant de parler du thème précisément. Rappelons ce qu'est le carême protestant sur France Culture et comment s'organise concrètement ce carême radiophonique du côté de la paroisse de l'Annonciation, parce que c'est là-bas que ça se passe au départ et que les choix se font.
Oui, c'est vrai Jean-Luc. Le carême protestant a été créé en 1928, c'était il y a presque 100 ans, par le pasteur Marc Bögner, qui à l'époque était pasteur de l'église de Passy-Annonciation, l'église protestante de Passy. Et l'idée de ce pasteur, Marc Bögner, était de témoigner de l'évangile avec une parole protestante pendant cette période particulière du carême. Et depuis cette date, chaque année, une petite équipe formée des pasteurs et des bénévoles de l'église protestante unie de Passy-l'Annonciation organise ce carême protestant en lien avec leur conseil presbytéral. L'équipe de l'Annonciation confie à un ou plusieurs ministres de l'église protestante la préparation d'un cycle de méditation à partir de textes bibliques. Elle définit avec lui un thème qui permettra d'ouvrir la voie vers l'espérance de Pâques. Et l'approche veut vraiment toucher le grand public, croyant ou pas. Elle mobilise des ressources tant théologiques que culturelles. Et elle propose d'entrer dans les textes par la foi ou par l'approche culturelle et existentielle.
Il y a aussi des partenariats, un partenariat particulier, parce que ces conférences sont aussi éditées en livre, et c'est avec Olivetan.
Oui, c'est ça. Alors, notre partenaire éditeur, ce sont les éditions Olivetan, qui reprennent les conférences du pasteur, les travaillent avec des ressources supplémentaires aussi, de manière à ce que le livre prenne une consistance spécifique, dans une collection qui s'appelle Paroles vives, et donc ce livre permet une autre écoute des textes, par la lecture intérieure, je dirais. Voilà.
Et puis, bien sûr, la Fédération protestante est partenaire au travers de l'émission. Florence, vous serez aussi la voix qui lit les textes bibliques et quelques autres textes. Qu'est-ce que cela change pour vous d'entrer dans l'écriture par la voix, par le souffle dans ce temps de carême?
Je suis personnellement musicienne, particulièrement sensible à la voix, sa chaleur, sa couleur, sa vibration. Pour moi, la voix est une expression du corps, mais elle engage aussi l'intime, l'esprit et l'âme. J'étais récemment particulièrement touchée par un ami lors d'une lecture biblique. Il me disait qu'il voyait ce qu'il lisait. C'était très beau. Il était avec Jésus, il s'inscrivait dans les paysages traversés et sa transmission était magnifique, elle donnait vie à la parole.
Alors nous vous entendrons déjà tout à l'heure dans cette émission parce que vous allez nous lire un très court texte biblique qui nous introduira dans cette idée des gestes. Je me tourne vers vous, Nathalie Chaumet. Cette année, le carême s'articule donc autour d'un mot très simple, très profond, les gestes. Pourquoi avoir choisi cette thématique ?
Eh bien, dans nos ministères, on a souvent cette question, nous recevons souvent cette question.
pendant le carême, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Et nous sommes bien embêtés, les pasteurs, parce qu'en protestantisme, eh bien, rien à faire, en réalité. Nous vivons sous la grâce, cette grâce qui nous relève sans cesse et qui nous envoie, mais qui nous envoie en liberté. Alors, quand je dis qu'elle nous envoie en liberté, elle nous envoie en liberté et en responsabilité pour chercher ce qu'il est bon de vivre les uns avec les autres. Mais il n'y a pas de consigne particulière donc pour ce temps de carême. Alors cependant, ça n'est pas parce qu'il n'y a rien à faire de précis ou rien à faire de particulier que ce carême ne nous est pas donné aussi pour habiter notre foi comme tous les autres temps finalement de l'année. Donc s'il n'y a rien à faire, par contre il y a tout à vivre, Jean-Luc, et c'est ce tout à vivre que j'ai souhaité explorer dans ces conférences de carême. Je voulais essayer de regarder comment les hommes et les femmes de la Bible habite cette foi que la présence de Jésus vient soulever en eux-mêmes et elle leur fait poser des gestes, parfois des gestes de rien, des gestes qui peuvent nous sembler dérisoires, infimes, parfois des gestes très démonstratifs, on le verra avec la femme au parfum, parfois des gestes transgressifs. Voilà, ce sont tous ces gestes posés que je voulais explorer.
Et vous avez choisi de rester dans l'évangile selon Luc?
Alors l'évangile de Luc, parce que j'ai une tendresse un peu particulière pour cet évangile, à cause des merveilleuses histoires qui y sont, je pense à bien sûr cette parabole du fils prodigue que nous allons d'ailleurs citer à plusieurs reprises, à ce magnifique récit des pèlerins d'Emmaüs, aussi parce que l'évangile de Luc a aussi une exigence envers les plus petits, les plus pauvres, nous appelle à l'attention par rapport à ces plus petits. Je pense notamment par exemple à la parabole du riche et de Lazare. Donc l'évangile de Luc, j'avais une petite tendresse particulière pour cet évangile et nous allons voir les gestes qui résonnent de ces hommes et de ces femmes qui se mettent en marche dans
la
foi.
Justement, par rapport à ce que vous dites à l'instant là, on aurait pu imaginer des gestes spectaculaires de Jésus. Vous avez préféré choisir des gestes de personnes qui sont même souvent anonymes.
Oui, ils sont anonymes, ces personnes, et pourtant, les gestes qu'elles ont posés sont entrés dans l'histoire. Et c'est cela qui m'a intéressée. Le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un geste, soudainement, a fait l'histoire? Alors, l'histoire biblique, entendons-nous, bien sûr, mais a fait quand même l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un avant et un après? Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus, un trésor de ressources pour nous-mêmes?
Vous dites que ces gestes sont d'abord enracinés dans la réception d'une parole. Alors comment une parole devient-elle un geste?
Eh bien, Jean-Luc, les gestes que nous posons, ce ne sont pas des gestes de machine. Ce ne sont pas des gestes mécaniques, même si, bien sûr, nous faisons certains gestes mécaniquement, un peu par habitude.
Forcément.
Voilà, nous le comprenons.
On parlera de se lever dans la dernière.
Voilà, des gestes que nous répétons indéfiniment, bien sûr. Cependant, ces gestes sont finalement le porte-parole de nous-mêmes. Mm-hmm. Nous vivons, nous nous exprimons par la parole, bien sûr, mais aussi au travers de nos actes. Et donc, ces gestes disent quelque chose de ce qui nous mobilise intérieurement, de ce qui nous fait vivre.
Et si on a des origines italiennes, c'est même encore un peu plus
voilà, un peu
visible.
Plus, voilà.
Aujourd'hui, on parle de gestes du patrimoine aussi. Peut-on dire qu'il existe, à l'inverse, un patrimoine des gestes de la foi, une sorte de savoir-faire spirituel à ne pas perdre?
Eh bien, c'est une jolie question, Jean-Luc. Patrimoine des gestes de la foi. Eh bien, le terme patrimoine, c'est un très beau terme, il faut bien le dire. Patrimoine, c'est un terme qui nous évoque l'idée d'une richesse précieuse, finalement, une richesse à transmettre aux générations suivantes. Alors, si nous le comprenons dans ce sens, oui, je garde ce terme patrimoine. Mais peut-être qu'il faut qu'on soit vigilant, parce que le terme patrimoine, c'est peut-être aussi l'idée d'un héritage figé, inamovible, à ne pas perdre. Or, Jean-Luc, raconter l'espérance des récits bibliques, ça n'est pas se pétrifier dans le passé. Et lire la Bible, ça n'est pas... Mais non, ça n'est pas partir en exploration dans les galeries du musée de la foi pour nous extasier devant des figures bibliques ou la manière de vivre la foi d'antan et essayer de la garder intacte. Les gestes que nous allons évoquer nous racontent le chemin de foi et d'espérance d'hommes et des femmes qui sont bouleversés par leur rencontre avec Jésus. Ces gestes sont devenus emblématiques de leur foi, mais nous lisons leur histoire non pas comme un souvenir ou comme une répétition du passé qu'il faudrait reproduire. Au contraire, il nous envoie. C'est à nous aujourd'hui d'inventer nos propres gestes dans la vie qui nous est confiée, dans nos rencontres les uns avec les autres. La lecture de la Bible, ça n'est pas une récitation au passé. Oui. Elle nous inspire.
Ce carême sera aussi traversé par la musique. Nathalie Chaumet, vous avez choisi un instrument particulier, la harpe. Et ce sera celle de Pauline Griffith comme invitée musicale. Pourquoi la harpe? Pourquoi Pauline?
Eh bien, je dirais d'abord pourquoi Pauline.
Oui.
Voilà, je lui rends grâce.
C'est une rencontre. D'abord.
Voilà, c'est une rencontre et je la remercie infiniment d'avoir accepté sa musique à la harpe, à nous accompagner tout au long de ces dimanches. Pauline m'a très souvent accompagnée lors des cultes dans ma paroisse du Vésinet.
Elle enseigne à Chatou d'ailleurs.
Elle enseigne à Chatou, exactement. Je sais qu'elle accompagne les cultes aujourd'hui aussi à Lille, là où elle vit. Et elle m'a accompagnée dans des circonstances très heureuses, des cultes avec les enfants, des cultes très joyeux, mais aussi des circonstances plus douloureuses, des services funèbres. Elle nous a offert des moments incroyablement porteurs, ressourçants. Voilà, et je lui dis un grand merci. Jean-Luc, je voudrais en profiter juste pour justement faire un petit salut à tous les paroissiens que j'ai pu croiser.
Et oui.
Voilà, enfin, avec qui j'ai partagé ce ministère.
Quelle paroisse alors
Voilà, ben, la paroisse de Meudon-Sèvres-Ville-d'Avray, pour commencer. Ensuite, la paroisse de Rouen, la paroisse du Vésinet, la paroisse de l'Annonciation, la paroisse de l'Étoile. Je salue tous les amis ici et là.
Et on les invite à vous retrouver tous les dimanches à 16h sur France Culture. Je vous propose moi d'écouter maintenant justement un titre de Pauline Griffith pour entrer dans cette ambiance musicale que nous aurons durant ces rendez-vous du Carême protestant. Un morceau inédit par rapport à ceux que vous entendrez dans le Carême qui est intitulé « The South Wind ». Sud qui souffle au travers de ces mesures de harpe, celle de Pauline Griffith. Autre regard maintenant sur ce carême protestant avec la chronique de la pasteur Sophie Ollier. Bonjour Sophie.
Bonjour Jean-Luc.
Alors, que vous inspirent ces gestes du carême?
Alors Nathalie, on ne s'est pas concerté et pourtant j'ai l'impression que nos mots vont se retrouver. Parce que nous entrons dans le carême et presque spontanément, et vous l'avez dit, une question nous vient. Qu'allons-nous faire cette année? Faire un effort, faire un jeûne, faire plus attention, faire autrement?
Ah oui, toujours faire.
Toujours faire, comme si, vous savez, le carême était une liste d'actions ajoutées à des vies déjà bien remplies. Cependant, le carême pourrait nous déplacer légèrement. Non pas en nous demandant de faire davantage, mais en nous invitant à habiter autrement ce que nous faisons déjà, à retrouver une cohérence entre notre être et nos gestes. Dans l'évangile de Luc, justement, il y a cet homme assis au bord du chemin. Il ne voit pas, il entend que Jésus passe et il crie « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ce cri n'est pas une performance, ce n'est pas une œuvre méritoire, c'est simplement un homme qui ose être là, pleinement là, dans sa fragilité et qui transforme cette présence en parole. Et ce qui est saisissant, ce n'est pas d'abord ce qui va lui arriver, mais le fait que Jésus s'arrête. Comme si, au milieu du mouvement, l'essentiel était de consentir à une rencontre. Le carême ressemble peut-être à cela, je crois. Il ne nous retire pas du monde, il nous apprend à nous y tenir autrement, à ne pas traverser nos journées en pilote automatique, à ne pas faire sans voir.
Et oui, car nous regardons souvent beaucoup et nous voyons peu au final.
N'est-ce pas ? parce que les informations défilent aujourd'hui.
Ben oui.
Les images s'accumulent, les crises se succèdent. Nous voyons des villes bombardées en Ukraine, des civils déplacés à Gaza, des individus tués aux États-Unis, des visages d'enfants hagards dans les camps de réfugiés. Et tout cela finit par, vous savez, devenir un flux parmi d'autres. Nous savons, mais nous ne regardons plus vraiment. Nous fermons les yeux pour continuer à fonctionner, entre guillemets.
Et on s'y habitue même.
Et oui, malheureusement. Et en même temps, bah justement, notre société, elle n'a jamais autant valorisé l'image. Les réseaux sociaux regorgent de conseils, vous savez, pour travailler son image, pour maîtriser sa visibilité, pour soigner sa présence en ligne. On apprend à se montrer, à se mettre en scène, à donner à voir une version de soi qui serait validée par les autres. Le regard des autres devient un critère d'existence. Ce qui compte, ce n'est plus seulement ce que nous faisons, mais ce que cela donne à voir.
Et il y a certainement un vrai décalage entre ce que nous montrons et ce que nous vivons réellement.
Oui, entre l'image et le fond, entre l'apparence de nos gestes et leur vérité. Et tous, nous voulons montrer, avoir une image, une certaine image de la société. On veut être reconnu simplement en nous voyant, et en même temps, nous-mêmes, on préjuge d'un autre juste en le voyant. Or, dans l'évangile selon Jean, lorsque les premiers disciples rencontrent Jésus, ils ne lui demandent pas quoi faire. Ils lui demandent où il demeure. Et Jésus leur répond par une invitation très simple, « Venez et voyez ». Voir n'est pas une activité passive, voir engage, voir déplace, voir oblige à ajuster ses gestes. C'est peut-être là que le carême devient un temps d'attente active. Un temps où nous apprenons à regarder notre vie, notre monde, les autres. Et où, à partir de ce regard, nos actions retrouvent leur sens. Il ne s'agit pas d'opposer le faire et le voir, mais de les tenir ensemble. Nos gestes deviennent plus justes lorsque nous acceptons de voir ce qu'ils touchent réellement, loin des images que nous donnons à voir. Regardez vraiment la souffrance du monde, regardez la fatigue de celles et ceux qui nous entourent, voir aussi nos propres contradictions, et laisser ce regard transformer notre manière d'agir. Il rend nos actions plus attentives, plus ajustées, plus humaines, moins soucieuses peut-être d'être vues et plus soucieuses d'être vraies.
Alors le carême ne nous pose peut-être pas seulement la question de ce que nous allons faire, mais de la manière dont nous allons le faire, et cela rejoint d'ailleurs les propositions de Nathalie.
Tout à fait, avec quel regard, avec quelle présence, avec quelle qualité d'attention, avec quel impact. Et cela demande une forme d'audace. Et oui, l'audace de ralentir suffisamment pour voir. L'audace de laisser ce que nous voyons transformer ce que nous faisons. Franchement, pouvons-nous encore voir la souffrance et dire simplement « Oh, c'est dur ». Et ne pas avoir l'impression d'être impliqué. Peut-être que l'espérance commence là, dans cette alliance retrouvée entre notre être et nos gestes, entre notre regard et nos actions. Une audace de vivre qui ne consiste pas à en faire toujours plus, mais à faire en voyant vraiment.
Merci Sophie. J'imagine que Nathalie, vous entendez là une résonance avec vos propositions sur lesquelles nous allons revenir. Moi, je repensais, puisque nous l'avons déjà enregistré à ce moment avec le brancard qui est porté par ses compagnons, qui voient la dureté de la vie pour cet homme et qui décide de prendre les choses en main.
Oui, merci Sophie pour cette très belle chronique qui nous fait réfléchir et qui nous appelle aussi à nous arrêter pour voir. Mmh. Alors oui, ça me fait penser à ces amis du paralysé, de la personne paralysée qui se mobilisent en voyant justement, peut-être en voyant depuis si longtemps la souffrance de leur ami, qu'ils en décident de porter cette personne paralysée jusqu'à Jésus. Mais la chronique de Sophie me fait aussi penser à la cinquième rencontre du carême, voilà, que nous avons aussi.
Plus difficile.
Plus difficile, mais qui nous invite aussi à suspendre nos gestes. Alors, dans cette cinquième rencontre, c'est suspendre les gestes de la violence, rien à voir avec ce que Sophie nous raconte.
C'est l'idée du carême, d'ailleurs, aussi, d'arrêter parfois certaines choses qui finalement nous bloquent dans la vie et nous bloquent dans la vraie vie.
Tout à fait, des choses qui sont futiles, qui ne nous apportent rien, alors que parfois, si nous suspendons un peu cet activisme, nous allons peut-être entrer réellement dans la rencontre, comme Sophie nous y invite, et peut-être alors poser de nouveau des gestes qui pourraient être signifiants, porteurs de sens. Et c'est bien tout l'enjeu peut-être de ce temps de carême, mais aussi de notre vie de foi, je crois.
En préparant cette émission, vous m'avez proposé finalement un septième geste, un autre geste de l'évangile que nous n'évoquerons pas dans le carême protestant du dimanche après-midi, c'est tiré d'une parole de Jésus, d'une histoire que raconte Jésus.
Alors, c'est l'histoire de la parabole de la graine de moutarde. Et je crois que nous laissons Florence
nous lire. Et oui, on va écouter Florence nous lire ce court passage.
Jésus disait donc, « À quoi le règne de Dieu est-il semblable ? À quoi le comparerais-je ? Voici à quoi il est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. »
Voilà, c'est une parabole que j'aime beaucoup, Jean-Luc, parce qu'elle est extrêmement signifiante. Si on l'écoute un peu avec distraction, je dirais, nous pourrions avoir l'impression que le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde. Mais ça n'est pas ce qui est raconté. Alors, souvent, on pense que c'est la graine de moutarde qui se transforme et qui donne un arbre avec les oiseaux du ciel, etc. Et ce qui est raconté, c'est que le royaume des cieux, donc, ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jeté.
Et oui.
Voilà. Donc en réalité, ce qui nous rapproche du royaume, c'est ce geste.
C'est le mouvement.
Voilà, c'est ce mouvement. À la fois de prendre, c'est-à-dire d'oser croire que dans une toute petite graine peut se loger presque un infini, un pouvoir de transformation. Donc déjà, il y a un geste de confiance, prendre cette graine. Et puis, il y a aussi un geste de déprise, la lancer en terre. Voilà, et la foi, ça n'est pas quelque chose qu'on possède en nous-mêmes. Oui. La foi, c'est un élan à la rencontre, au risque les uns des autres, au risque de l'espérance. Voilà, il y a tout ça dans cette toute petite parabole que je trouve assez incroyable.
C'est ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs avec notamment les paraboles, mais ces textes de la Bible et des évangiles en particulier, comment se cachent derrière des tout petits détails, des choses qui peuvent prendre tant de sens encore aujourd'hui dans nos propres vies.
Voilà, il y a une résonance de ces gestes aujourd'hui encore dans nos existences. Dans les gestes sur lesquels nous allons nous attarder, il y a souvent un avant et un après du geste, un basculement de l'histoire au travers de ce geste. C'est ce que nous verrons aussi.
Si vous deviez résumer en un mot ou une image la dynamique de ce carême, laquelle choisiriez-vous ?
Là, c'est difficile, Jean-Luc, résumer six conférences en une image. Je dirais la foi comme élan. La foi comme élan, comme confiance agissante, avec invention, comme les amis du paralysé, avec une confiance agissante, mais pas seulement pour soi, une confiance agissante les uns avec les autres et les uns pour les autres, pour faire grandir la vie, voilà, faire grandir l'espérance. Peut-être la foi non, comme un trésor que l'on possède, mais que l'on redistribue aussi. Ouais. Voilà.
On revient finalement sur cette petite graine que l'on ose prendre et que l'on déprend.
Et voilà, dont on se déprend aussi, que l'on jette. Voilà. La foi, c'est tout le contraire finalement de l'immobilisme.
Ouais.
Et il me semble que c'est ce que ces gestes viennent illustrer. Peut-être qu'ils nous appellent à nous remettre en mouvement lorsque nous commençons à nous crisper un peu sur nous-mêmes, sur nos peurs ou sur voilà, tout ce qui nous inquiète dans la société d'aujourd'hui. Et il y a tant de choses, il faut le dire, Jean-Luc.
Alors, c'est le carême protestant, mais de votre point de vue, à qui s'adresse cette proposition autour de ces gestes pour espérer ? Est-ce que c'est justement pour des protestants, pour des croyants, pour des chercheurs, pour des simples auditeurs curieux ? Y a-t-il un public particulier que vous visez avec ces réflexions ?
Absolument pas. Ces gestes sont offert à ceux et celles qui veulent s'en saisir, justement, non pas pour les reproduire, mais comme une invitation à avancer au cœur de leur existence, à leur tour, en inventant ces gestes-là.
Un carême protestant qui s'adresse donc à tous les auditeurs de France Culture. Je trouve ça très important à préciser parce qu'on peut croire parfois que c'est un peu comme une étude biblique ou une réflexion qui s'adresse uniquement à ceux qui croient déjà. Non, il y a bien plus que ça, et notamment dans les propositions que vous faites là.
Voilà, évidemment qu'on peut écouter le récit de ces gestes dans la foi, une foi que l'on a déjà, mais on peut aussi écouter simplement le récit de ces gestes de manière, je dirais, presque anthropologique, la manière dont ils nous mettent en mouvement, ils nous font exister, et nous pouvons ainsi réfléchir sur nous-mêmes en simplicité, avec ou sans la foi, et découvrir ce chemin de l'existence.
En paroisse, puisque j'ai deux pasteurs en plus là face à moi, Sophie et Nathalie, ce carême, vous l'utilisez, vous en emparez aussi dans les temps d'assemblée ? Est-ce qu'il y a des choses particulières d'organiser ? Sophie ? Donc vous, vous êtes à la paroisse
de Pantemont-Luxembourg.
À Paris.
À Paris. J'ai envie de dire oui et non. Alors nous, on a des visios qui sont proposés tous les mardis pour prendre un temps de prière et d'échange autour d'un texte biblique. En soi, je dirais, on disait, il n'y a rien à faire en particulier. On se laisse porter aussi par les textes du jour du dimanche, oui. Et avec cette dimension de carême, portée aussi par les rencontres que va nous faire vivre Nathalie là pendant ce carême protestant. Et puis peut-être, voilà, amener les paroissiens, les paroissiennes, à sentir quelque chose dans leur vie peut-être de plus profond, et le carême peut être un beau moment pour insister sur ça.
Et le temps de Pâques après, la semaine pascale, tout ça, là, Boire. Il y a énormément de choses par contre, souvent.
Oui, jeudi saint, où on partage un repas, on partage la Sainte Cène au milieu. Le vendredi saint qu'on fait en consistoire à la paroisse Saint-Jean. Et puis Pâques, où on célèbre
évidemment
la résurrection avec des baptêmes en plus cette année.
Et du côté de l'étoile, Nathalie?
Oui, toujours l'invitation à approfondir la parole. L'an dernier, nous avions proposer donc aux paroissiens, mais à tous ceux qui le souhaitaient aussi, tous ceux et toutes celles qui le souhaitaient, de réécouter une prédication chaque jour à l'écoute de la parole. Alors parfois des prédications de l'étoile, mais aussi d'autres prédications que nous avons pu repérer, voilà, avec bien sûr l'autorisation des prédicateurs. Voilà, donc cette invitation à se replacer à l'écoute de la parole. Après, je dirais qu'à l'étoile, il y a aussi une tradition un peu ancrée dans l'héritage de Calvin, de rappeler finalement que le temps de notre foi, c'est pas seulement le temps du carême ou c'est pas seulement le temps de l'Avent, c'est le temps du quotidien,
ouais. Hein,
et que c'est tous les jours qu'il nous faut chercher comment entrer en résonance avec cette parole biblique finalement.
Ce qui est intéressant de rappeler en effet bien souvent.
Bien souvent. Mais voilà, ça, il n'empêche que chacun est libre d'inventer,
oui,
ce qu'il souhaite pour ce temps de carême, de le marquer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, hein, des jeunes, pas notamment climatiques, ou se couper des réseaux, ou retrouver une certaine profondeur d'existence.
Ouais, toutes sortes de jeunes, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à toutes les trois, Nathalie, Florence, Sophie. Le Carême protestant, c'est, rappelons-le, donc chaque dimanche à 16h sur France Culture, dès cet après-midi et jusqu'au 29 mars inclus. Et nous nous quittons avec le morceau de Pauline Griffith qui viendra conclure aussi chacun de ces rendez-vous du Carême protestant. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Cette émission est naturellement à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 ce matin, dans Présence protestante à 9h22. Précisément, horaire décalé en raison de la diffusion des Jeux Olympiques d'hiver. C'est notre culte dans une ambiance chaleureuse et conviviale, un peu comme dans votre salon, pour vivre et partager de façon plus intime un moment de louange et de méditation biblique. Et sur France Culture, à bientôt 9h, vous retrouvez vos informations, puis Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, en vous souhaitant un très bon dimanche à chacune et chacun, et bien sûr en vous donnant rendez-vous à 16h pour la première du Carême protestant.